Le contact sur Autoradio.
Yes, yes, yes.
Eureka, du déclic à l'invention, présenté par Alexis.
De tous les salons, les foires et les grandes expositions, souvent imitées, souvent copiées, jamais égalées, et le produit de l'année. Grâce à mon inventivité.
Eureka, du déclic à l'invention, présenté par Alexis.
Salut les radionautes et bienvenue pour une nouvelle émission d'Eureka, du déclic à l'invention. Et c'est la deuxième partie sur les innovations de la RATP. Nous retrouvons André Ampelas, le meneur de nombreuses réalisations à la RATP, comme le Pass Navigo, la radiolocalisation des bus et la borne Ciel qui indique le temps d'attente aux arrêts de bus. Et depuis 2004, où il a quitté la RATP avec amertume, à 68 ans, André Ampelas n'a pas décroché, il continue son chemin en consultant indépendant. Il poursuit à travers le monde le développement de Calypso, la techno du Pass Navigo, et il nous livre également son nouveau projet pour les transports. Mais avant d'écouter cette interview et de retrouver aussi en fin d'émission Pierre Daror et Raoul Parianti qui ont breveté le premier prototype du Pass sans contact, je vous propose de jouer en écoutant l'interview d'André Ampelas. Répondez aux deux questions que je vais vous poser et les trois plus rapides à poster les bonnes réponses en commentaire se verront rembourser leur abonnement mensuel des transports, comme le rechargement du Pass Navigo pour la région parisienne. Alors écoutez bien les questions. Question 1. Quelle grande ville française n'a pas adopté la techno Calypso pour son pass sans contact dans les transports? Je répète, quelle ville française n'a pas adopté la techno Calypso pour son pass sans contact dans les transports? Question 2. Combien d'heures maximales un conducteur de métro ou un chauffeur de bus conduit-il par jour son train ou son bus? Combien d'heures maximales par jour conduit-il sans les temps de pause? André Ampelas vous donne les réponses, alors à vous de jouer. Bonne écoute.
Autoradio, la radio qu'il te faut.
Alors, le télépéage piéton créé à la RATP a été précurseur et exporté à d'autres pays. Mais d'abord, précisons un peu la technologie Calypso et le Pass Navigo. C'est quoi la différence?
Ah, bah, il n'y en a aucune. La seule différence, c'est que c'est le nom de baptême de Paris qu'ils l'ont appelé Navigo. Pour quelle raison, j'en sais rien. J'ai pas trempé dans cette appellation et je m'en fiche. Calypso, c'était le nom qu'on avait donné à la technique. Ouais. Alors, il faut savoir que Calypso, c'est aussi le nom d'un projet européen. Puisqu'en fait, quand on nous coupait les fonds sur Paris, eh bien, je suis allé chercher des fonds en Europe. Choisissant des villes très contrastées pour montrer justement que le but, c'est de faire un standard valable dans le monde entier. Donc nous avons pris une petite ville, en l'occurrence Venise, ville superbe, on y allait de temps en temps, Lisbonne, capitale moyenne, mais avec beaucoup de transports en commun, et Constance, il fallait bien sûr une ville allemande, plus Paris, un gros monstre, et enfin Bruxelles, qui était la capitale de l'Europe. Donc, il y a eu deux projets européens, le premier c'était Icar, purement du transport, et Calypso, c'était effectivement la synthèse que je vous disais, le fameux pass urbain, où il y avait à la fois un porte-monnaie électronique, il y avait également l'aspect transport, il y avait l'aspect donc effectivement carte de fidélité, et l'aspect identification. Donc Calypso, c'est le nom de code du projet européen qui a donné son naissance à cette technique. Je revendique, si vous voulez, au fond, le fait d'avoir été le fondateur de Calypso, le gars qui a mené un peu tout cela. Mais Calypso a été le fruit d'apports multiples, non seulement de gens de la RATP, mais également de collègues qui venaient de ces villes que je viens de citer.
Ouais. Et combien de villes, pays, est-ce que vous savez, utilisent ce système?
Alors, villes, c'est difficile, il y en a au moins une centaine de grandes. Des pays, il y en a 24. D'accord, mais on le retrouve alors pratiquement dans tout le sud de l'Europe. La France est toute pacifiée, je dirais, en dehors de Montpellier. Il faut toujours qu'il y ait un village gaulois, hein, pour des raisons qu'on peut expliquer. L'Italie est sur Calypso. De l'autre côté de la Méditerranée, donc on trouve donc le Maroc est parti sur Calypso. On trouve Calypso bien sûr en Belgique. Hein. On trouve Calypso, donc comme je l'ai dit, tout le pays d'Israël qui lui, par la loi, a voté une loi. On trouve Calypso au Portugal, puisque mon collègue était devenu le ministre des Transports, donc ça a été il a poussé très fort là-dessus. On trouve Calypso, bah maintenant je suis consultant justement sur Mexico City, où une des plus grandes villes, ou la plus grande ville du monde, est en train de basculer complètement sur Calypso, par exemple. On en retrouve Montréal et Calypso également, et on en retrouve un peu dans différents coins du monde. Caracas est également Calypso, le Caire est également Calypso, voilà, de un certain nombre de villes.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un jour avoir avec son pass Navigo aller dans toutes ces villes et l'utiliser ?
Alors, c'était bien l'image que nous avions au départ. Ça suppose, vous voyez, quand vous avez beaucoup d'informations, on évoquait le problème tout à l'heure, il faut que l'information soit stockée de la même façon pour que ce soit simple d'y accéder. Donc, moyennant ce qu'on appelle un mapping identique, il n'y a plus que les clés qui permettent d'entrer. Les clés, il faut imaginer ça un peu comme un super pin, comme sur votre carte bancaire. Quand vous connaissez ces clés, vous pouvez donc un simple échange de clés permet effectivement d'aller dans la ville correspondante. Et alors, les techniques, si vous voulez, c'est de pouvoir charger ces clés en sécurité, c'est des évolutions, ce qui montre bien que tout ça est un processus en marche, ouais, et qui avance, et c'est bien pris en compte. L'ambition était de faire le GSM des transports en commun, hein. Donc c'est bien présent dans nos préoccupations.
Alors on l'a un petit peu évoqué, mais pas complètement. Quels étaient les travaux antécédents sur le pass sans contact ? Il y a en tout les portes d'accès aux entreprises qui ont abordé ça avant le télépéage piéton pour les transports.
Alors moi, sincèrement, je ne peux pas vous faire un panorama exhaustif de ce qui existait ou qui n'existait, ouais, pas. Ce qui est certain, c'est que je sais que, par exemple, les contrôles d'accès par des badges de proximité à 125 kHz préexistaient. Je puis vous dire que nous, notre premier prototype était sur de l'infrarouge. On a essayé aussi des hyperfréquences, on a tout essayé. Bon, avant d'aboutir à la nécessité de mettre au point une transmission de proximité qui ait certaines caractéristiques, qui soit rapide, puisque si on veut faire de la sécurité, il faut transmettre très rapidement, et qui a donné d'ailleurs naissance à la norme internationale, hein, 14443, ouais, ISO. Moi, ce que j'ai cherché, c'est des briques qui pouvaient nous être utiles. Je vous ai dit, on a repris une brique qui était fournie par le SEPT. Alors, il y a eu des travaux sur les péages, à ma connaissance, je vous dis, tentative d'essayer les cartes à puce. Bon, là, c'était aberrant, ça peut aller que dans des toutes petites villes, puisque le temps de traitement est tellement important, 3 secondes, essayer de traiter en 3 secondes ferait la révolution dans n'importe quelle grande ville.
Stop that train. Mon métro, c'est la fête à la mitraille, mon esprit qui déraille, les pickpockets travaillent, les souris dansent sous les rails. Pas d'abracadatune à tous les coups, mais ça vaut mieux que planter des clous. Et puis comme taf, y'a plus relou. Ligne 2, ligne 12, ligne 6, avec les gros. Étoile, Kléber, Boissière, Trocadéro. C'est mieux que le body step pour perdre des kilos. Deal de son compte, des devises dans mon chapeau. Dollar, Copec, franc, suisse, yen ou euro. Comme Bogdan, Antoine, Manuel ou Ricardo. Mais pas d'ampli, pas de micro, pas de chariot. Pas dans les couloirs pour prendre des vents par les badauds. Entre les straps, en temps pour que tu rates pas le spectacolo. Pendant que les stations défilent, j'vise vos tampons et croise vos regards de temps en temps. Sous pas métro extraordinaire, c'est quel arrêt pour être chanteur populaire, quelle direction pour un développement de carrière. Oui, dans 15 wagons j'aurai gratté mon salaire. J'ai une belle vue sur Babylone, du haut des chiottes du palier de ma chambre de bonne. J'tape un coup de fil du taxiphone. Et mon métro, c'est la fête à la mitraille, mon esprit qui déraille, les pickpockets.
Alors, vous êtes aussi à l'origine de la radiolocalisation des bus. Pouvez-vous me raconter comment a débuté la radiolocalisation des bus ? Il y a une histoire assez amusante.
Ah oui, alors l'histoire assez amusante, ça se passe dans les années 90. C'est Christian Blanc qui m'appelle et qui me dit « André, il y a un problème ». Bon, un de plus. Et il me dit, on a un autobus, on ne sait pas où il est, il faut le retrouver. Bon, en quoi je peux vous être utile ? Il me dit, plus jamais ça, il faut qu'on sache où sont nos autobus.
Un bus perdu. Donc.
Un bus perdu qui avait été détourné par un gars qui avait agressé et qui avait emmené tous les clients, etc. On ne savait plus, il était dans la nature, on ne savait pas où il était. La presse, heureusement, n'a pas trop parlé, pour ne pas donner des idées saugrenues à un certain nombre de bonhommes. Donc, il fallait localiser les bus. Alors, je m'étais mis au travail. J'avais pensé à un monstre, voilà l'exemple d'erreur, hein. Donc il y avait 400 balises disséminées dans Paris, enfin en devenir, hein. On les avait pas installées, Dieu merci. Mmh. Et donc on localisait un bus au carrefour et puis on essayait de se débrouiller comme ça. Bon. Et puis la suite, par le plus grand des hasards, c'était la guerre du Golfe. Je suis rentré chez moi un peu plus tôt que d'habitude. Et puis on a dit, voilà, les Jaguars français étaient perdus. Et puis on leur a mis une boîte, un GPS. Et ils arrivent à se localiser. Moi, je savais pas ce que c'était. Donc, je me suis renseigné. Le lendemain, donc, j'ai fait acheter un équipement qui s'appelait Trimble. C'était un des rares fabricants à l'époque. Ça coûtait 50 000 francs. Je m'en souviens très bien. Ouais. Donc, ce qui montre, vous voyez, qu'il faut être un peu libre de dépenser, ouais, à bon escient. Et je me suis dit, après tout, dans les, donc j'ai questionné des industriels qui m'ont dit, mais n'y pensez pas, ça marche bien dans le désert, ça marche bien en mer, mais en ville, oubliez, il y a des effets canyon, ça marchera jamais. Parce que, bon, en gros, si vous voulez, le GPS, comme vous le savez, fonctionne sur une constellation de satellites qui tournent, et donc il faut les voir, il faut être en visibilité pour qu'on puisse, il y en a 24, donc pour savoir où, ouais, on est. Alors, on fait, en gros, ouais, par un temps d'aller-retour, vous êtes sur une sphère, puisque c'est un temps constant, vous coupez des sphères, mais il faut encore faut-il voir ces satellites. Bien. Donc j'ai envoyé un de mes collaborateurs en me disant, mais nous, on a des problèmes en banlieue, donc ça va marcher. Puis il est revenu, il m'a dit non, ils ont raison, ces cons-là, ça ne marche pas. Bon, et il me dit, mais quand même, il y a un truc, donc c'est tout à son mérite, il s'appelle Alain Chénois. Il me dit, mais dans les carrefours, ça marchait bien. Ah, très bien, donc si on met une estime entre les points de carrefour, on va s'en sortir. Donc j'ai cherché, j'avais fait mon sélectionnité dans la marine, j'ai rien trouvé, j'ai trouvé le pilote d'essai du Mirage 2000 qui s'appelait Bruno Coiffé. Et avec lui, donc, il est au début, je dis, mais ok, mais on travaille sur GPS, donc sur le GPS que lui aussi n'avait pas utilisé. Et donc voilà comment on l'a mis au point assez rapidement avec les cartographies que je mentionnais tout à l'heure faites par des étudiants, hein, donc la localisation d'un autobus et d'un espace. Alors c'est assez amusant parce que je me souviens très bien, nous étions au Mexique avec Christian Blanc justement, et dans le vol du retour, il me disait de lui parler un peu de tout ce que je suis en train de développer, dont ça. Et alors il m'a dit, c'est très bien, il a convoqué une conférence de presse le lendemain pratiquement, et justement on parlait de secrets. Bon, lui il a expliqué tout ce qu'on faisait, donc
dévoilé, très
alors
vite,
dévoilé, hein. Alors, tout le monde s'est dit, si c'est con de la RATP y arrive, on va bien y arriver aussi. Ça a été un peu une curée,
ouais,
mais on avait mis au point, et alors on était très fort parce qu'il y avait une petite rue assez embêtante dans le quartier latin où on testait tout système et on pouvait envoyer en l'air, on savait très bien ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Voilà donc les premiers bus localisés. Et très tôt, la flotte de la RATP a été bien sûr la première au monde à être entièrement localisée. Ça s'est fait dans les années 95. Les 5000 bus étaient entièrement localisés à des fins essentiellement de sécurité. Et non seulement ça, mais nous rapatrions très tôt, hein, l'image d'autobus à bord. Notamment, je me souviens, nous avions sur l'autobus 272 près de la Défense, nous rapatrions l'image. Alors, il fallait un tuyau énorme et il y avait une conférence de Bill Gates dans le nord de Paris où il disait que demain, nous aurions des images qui viendraient de mobile. J'avais levé la main, je me souviens que c'était assez marrant, et j'avais dit, mais attendez, nous l'avons, je vous invite à le voir sur l'autobus 272 à Paris.
C'est un coup d'œil dans le métro, métro. Un scénario pour la métro, métro. Nos deux héros semblent rétro, rétro. Mais dans le monde réel, on n'en fait jamais trop. C'est un coup d'œil dans le métro, métro. Un scénario pour la métro, métro. Nos deux héros semblent rétro, rétro.
Vous êtes bien sur Autoradio.
Alors, il y a une autre invention qui a fortement amélioré l'information aux voyageurs. C'est la borne ciel, hein, aux arrêts de bus, qui indique le temps de passage des prochains bus. Là aussi, c'est parti d'une idée un peu amusante, originale, et puis une évolution technologique nécessaire.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, comme je viens de l'indiquer, nous avions la localisation des bus à des fins de sécurité, pour savoir où était l'autobus et avoir à le recueillir l'image. C'était parce que nous recevions le son, mais on voulait en plus l'image. Et alors, une fois qu'on avait cette information, on se disait quand même dommage de ne pas la donner aussi aux voyageurs.
Et oui.
Mais il y avait un frein, c'est que on savait le faire, mais il fallait jusque-là attirer des fils, avoir un gros moniteur. Ça se faisait donc sur la ligne 26-29 et devant l'Opéra Bastille, je crois qu'il y a encore un boîtier qui est encore là pour montrer cette glorieuse époque. Mais ça coûtait très cher. Bon, donc, si vous voulez, l'idée, c'était de dire, ben, ras-le-bol. Il y avait des pagers où on recevait un message pour dire rappeler, donc tout petit boîtier.
Les petits bebop pour les plus jeunes.
Bebop, c'était un téléphone, hein, en borne.
Ah, d'accord.
Non, c'était des pagers, c'est-à-dire qu'en fait, c'était un espèce de message qu'on recevait sur un petit boîtier. C'était un boîtier pour les jeunes où on recevait des SMS, quoi. Mais uniquement que des SMS, ouais. Il n'y avait pas de voix. Mmh. D'accord. Donc, on avait ça, et tous les médecins avaient ça pour qu'on les appelle, voilà. Et j'ai dit, ben, vous allez me mettre ça. Ben, alors, manque de peau, là, il fallait réoptimiser les transmissions, puisque parfois on n'était pas sûr du temps de transmission. Donc oui, si vous disiez l'autobus arrive dans deux minutes et que vous envoyez ce message le lendemain, ça la foutait mal.
Ouais.
Bon, c'est cette mise au point assortie également à la localisation qui était du coup très bon marché, puisqu'avant on localisait l'autobus avec des boucles dans le sol, donc ça coûtait très cher, il fallait ouvrir la voirie, etc. Donc ça a été une révolution. Et je me souviens qu'au début ça avait été très amusant dans les congrès, les gens disaient qu'on n'y arriverait jamais. Aujourd'hui plus personne met ça en cause. Mais Londres, par exemple, à l'époque, a lancé un projet Countdown qui a coûté la peau des fesses, où ils localisaient leurs autobus avec des boucles dans le sol, plus des points d'information voyageurs avec des câbles, et ça leur a coûté des sommes astronomiques. Et je me suis dit, en engueulade mémorable lors de congrès, on leur disait, mais attendez, c'est ridicule, vous n'y arriverez jamais. Bon, mais aujourd'hui, je crois que Londres doit certainement modifier, a dû installer des choses avec du GPS et des informations du même genre.
Et les temps indiqués dans le métro, c'est le même système ou c'est pareil, c'est un système assez cher?
Le principe est le même.
Ouais.
En fait, ce qui a permis de faire tout cela dans le métro, c'était à peu près à la même époque. Parce que pour faire tout cela, ce qui est essentiel, d'avoir de très bonnes transmissions. Donc, en fait, dans ces années-là, nous avions un réseau de télécom à la RATP qui était excessivement performant. Donc, ayant cette infrastructure, il nous était relativement facile d'envoyer des informations en station. Donc, comme nous savions où se trouvaient les trains, je dirais que donner cette information sur les métros était très facile. On ne l'a pas fait au départ parce que s'il est le besoin, il faut toujours être obsédé par le besoin, était moins important sur un métro, notamment aux heures de pointe, où vous savez qu'il se succède, donc peu importe, à la limite, ouais. Vous savez bien qu'il va arriver de toute façon et rapidement, que sur une ligne de banlieue d'autobus ou dans le froid. Vous ne savez pas si l'autobus va passer dans 15 minutes ou dans 20 minutes. Hein, oui. Et nous avions d'ailleurs développé à l'époque, sur la position connue de l'autobus, un service dans les années 95-96 où vous pouviez téléphoner et même on vous donnait l'heure de passage de votre bus en étant chez vous.
Est-ce que c'est fiable pour les temps de bus? A priori oui, mais est-ce que par exemple il y a des problèmes de circulation?
Non, alors là, si nous sommes tout cela se fait par radio.
Ouais.
Donc on est tributaire de la radio, vous mettez une tour, une grue métallique, elle vous perturbe le champ d'émission. Par ailleurs, ces bornes sont autonomes, donc il y a des batteries, donc il faut assurer un minimum de maintenance. Donc si vous voulez quelque chose qui est parfait au départ, s'il n'y a pas une maintenance convenable, vous avez des dérives, c'est à ce à quoi vous faites allusion.
Non, je parlais plutôt des problèmes de circulation, des embouteillages.
Si vous voulez, en gros,
arriver une
en
minute.
Gros, effectivement, vous avez parfaitement raison. Ouais. On n'est pas dans un mode parfait, idéal, comme on est dans sur une ligne de métro, où on peut prédire de façon quasi certaine le temps qui va s'écouler entre le point où nous sommes et le temps d'arriver à la station suivante. Là, il y a un aléa. Néanmoins, l'aléa est pondéré, si je puis dire, par l'observation du bus qui précède. Donc, si on voit à peu près quels sont les aléas de la circulation prévisible.
D'accord.
Donc, il y a une projection et qui rectifie en temps réel. Ce qui explique que parfois les gens ne s'expliquent pas très bien. Un bus qui devait arriver, qui était annoncé dans 3 minutes, eh ben, il passe subitement à 4 minutes. Tout simplement, c'est qu'il a pris en compte un aléa de circulation.
D'accord. Je lancerai quand même un appel sur la vérification du bus 295 et 194, si la RATP m'écoute. Je suis pas sûr, il y a un problème
à
un endroit, mais...
Non, c'est bien possible. Tout cela est basé sur des observations et donc des extrapolations. Il est possible qu'il y ait une erreur. Mais enfin, dans
je
le principe...
Je pense aussi, ça peut être aussi les temps d'attente, parce que il y a des bus qui peuvent aussi attendre un peu plus longtemps à certains arrêts. Est-ce que ça peut être pris en compte plus facilement?
Ça l'est en principe. Dans le principe, c'est pris en compte. Alors,
d'accord.
Il se peut qu'il y ait un dysfonctionnement ponctuel, ça peut arriver, bien entendu. Et puis, si vous voulez, au fond, ce qui est important, plus que la précision de l'heure d'arrivée de l'autobus, c'est le fait de dire, eh bien, je sais qu'il va arriver à peu près. Vous voyez, il ne faut pas y attacher une importance extrême. Moi, à l'époque, d'ailleurs, je voulais mettre des sabliers plutôt que des indications
c'est
très
claires. C'est le symbole du ciel, d'ailleurs.
Tout à fait. C'était ça. Mais également un autre point qui a été mis à bord des bus, que vous avez peut-être vu, c'est qu'une fois qu'on est monté, il était important de savoir combien de temps j'allais mettre pour arriver à destination. Et vous l'avez à bord des bus également.
Ouais,
aussi, c'était une grande première.
Ouais.
Et ça a été, je me souviens, un grand combat, puisque les exploitants de l'époque n'en voulaient pas. Et on l'avait glissé. Alors pourquoi c'était sur la ligne, je cherche le numéro de cette ligne, je crois que c'était la ligne 36, si je ne m'abuse, qui passait devant la mairie. Parce qu'en fait, on voulait désespérément que le maire de Paris s'y intéresse pour lui donner les financements pour enchaîner. Parce que ça, c'est toujours la dimension de l'innovation. Je disais, dans les boîtes normales, vous avez 3 dimensions. C'est l'idée, la concrétisation et le fait que ça soit bien sûr plébiscité par les utilisateurs. Et là, il en faut une 4e toujours. C'est qu'il y a le décideur qui dise oui, on va y aller. Parce que si, quand vous êtes sur votre entreprise, vous dites je mets l'argent et j'y vais. Quand vous êtes dans une boîte comme ça, parapublic, il faut trouver le financeur. Donc il faut convaincre ces gens-là.
Ouais.
quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur?
Quel sera notre futur? Ensemble, je le demande vraiment, ça nous intéresse. On pense.
Alors, vous avez continuellement innové durant toute votre carrière dans le secteur des transports. Est-ce que vous avez aussi inventé d'autres choses dans d'autres domaines?
Je me souviens, Christian Blanc, il me disait que j'avais un procédé pour laquer les plafonds, bon, etc., parce que j'aime bien. Mais non, je crois que je suis passionné par les transports en commun. Et encore une fois, je crois qu'il faut être, il faut très bien connaître son sujet, son domaine, et se dire, voilà, il y a tel besoin qui n'est encore pas rempli. Et je suis intéressé aux alarmes, par exemple. Bon, vous êtes dans une maison, vous avez un malfaiteur qui s'introduit. Comment différencier le fait que vous êtes autorisé à y être et pas le malfaiteur? C'est un vrai problème. Bon, ben, celui-là, j'ai pas encore réussi à le résoudre. Pourtant, je me suis intéressé aux alarmes. Où j'avais fait développer des alarmes pour mes besoins quand j'ai vécu au Mexique, par exemple. Mais de façon plus sérieuse, je dirais, au fond, et sur les transports, là, j'ai déposé récemment un brevet, qui me paraît tout à fait intéressant, avec une fonctionnalité qui est assez évidente, c'est celle, par exemple, sur un taxi, de pouvoir payer avec la carte sans contact. Mais au-delà, c'est de s'assurer que le conducteur est bien le conducteur autorisé et personne d'autre. Donc, s'il est, c'est un taxi super sûr et garanti sûr. En France, on n'a pas encore trop ce problème, bien qu'il y ait eu, je m'en souvenais peut-être, une Suédoise coupée en morceaux, etc. Et le soir, ça pourrait être bien utile pour prendre un taxi. Mais dans des pays comme en Amérique latine et au Mexique, c'est un vrai problème. Et je ne vous cache pas que la semaine prochaine, je pars à Mexico pour essayer de pousser ce projet qui a l'air de séduire la ville de Mexico.
Et le produit de l'année.
Quelle était la part de secret dans vos recherches? Aviez-vous une démarche de confidentialité des innovations?
Alors ça, c'est un éternel débat, surtout dans des boîtes parapubliques où, si vous voulez, on vous demande des comptes à tout bout de champ, parce que, si vous voulez, c'est peuplé de gens... Il y a des gens extraordinaires, hein, ne croyez pas que j'ai pas passé toute ma vie dans une boîte comme ça pour cracher dessus. C'est pas du tout ce que je fais. Je pense qu'il y a des gens remarquables, mais il y a aussi des gens qui savent pas très bien ce qu'ils font, qui sont un peu inutiles et qui tournent, qui croient que leur grande vocation, c'est de contrôler tout le monde sans même savoir ce qu'ils contrôlent. Il faut un secret, même pas pour eux. C'est pas tellement la concurrence dans ces boîtes-là. Il y a pas tellement de concurrence. Mais il faut laisser les gens tranquillement chercher. Il ne faut pas être obsédé par le résultat immédiat. Comme dans la gestion d'aujourd'hui, on veut à tout prix vous appliquer des calculs économiques qui démontrent une chose et son contraire, on n'a rien de temps. Non. Vous avez un temps où vous devez être tranquille. C'est comme quand vous rédigez un document. Vous êtes tranquille. Vous ne pouvez pas rédiger un document à quatre. Donc, il faut être seul. Donc, déjà, le secret est imposé parce que vous êtes seul.
D'accord.
Donc, moi, j'avais une théorie. Je mettais une chape de plomb. Alors, j'avais la théorie du vieux renard et du jeune loup. Le vieux renard, donc, c'était moi, donc avec un peu d'expérience, etc. Et comme j'avais pas le temps de tout faire, parce que j'avais des danseuses multiples, parce qu'il y avait comme le pass sans contact, il y avait la radiolocalisation, il y avait les filiales télécom, il y avait beaucoup de choses. Donc je mettais un jeune loup. Bon, et ce jeune loup était sous cloche. Une fois tous les deux jours, on faisait un brainstorming. Et il repartait, il revenait, ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'était le secret absolu. Donc il fallait pas en parler. Pas la peine. Il fallait qu'on ait démontré la faisabilité technique. Toujours en prenant le maximum de briques existantes. J'ai pas de réinventer le fil à couper le beurre, y compris dans le pass sans contact. Je vous l'avais montré, on a pris des briques multiples qui existaient. On a inventé que ceux qu'il fallait, le strict minimum. Donc, on démontre la faisabilité technique. Alors après, on passe dans une première aventure où, d'abord, on se teste nous-mêmes, et surtout quand on va prévoir des milliers de personnes dans les villes. Le pass sans contact a été testé, comme je vous l'ai dit, d'abord sur les agents de la RATP, d'abord sur les agents de péage, puis après sur les 40 000 agents, avant d'aller voir les premiers clients.
Hey.
Donc là, on passe à une première phase. On disait le test en vraie grandeur, in situ, en échelle réduite, d'accord, pour voir quels sont les problèmes réels qui sont posés.
Ouais.
Et c'est seulement à cette issue-là, et là, alors là, je n'ai accepté l'intrusion de personne. Enfin, le voile commençait à se lever à l'issue de la phase de faisabilité. Il y avait le test en vraie grandeur limité, le voile était levé, mais l'étude économique n'était jamais appliquée trop tôt. Donc il y avait trois étapes. Un, faisabilité et développement. 2, tests en vraie grandeur. 3, généralisation. Et c'est là où il y a un verrou. Et c'est là qu'on gère donc de façon progressive.
Vous venez d'acquérir une carte Imagination.
Bienvenue.
Grâce à la carte Imagination, évadez-vous sur simple demande.
Votre code à 4 chiffres.
Appuyez sur votre carte Imagination permettra de vous évader quand composez votre code à 4 chiffres. Un simple code à l'abri des regards indiscrets. Code erroné.
Annuler, veuillez insérer votre code.
Composez votre code à l'abri des regards indiscrets. À l'abri des regards indiscrets. Pour renouveler votre carte Imagination.
Formulaire attenant votre distributeur.
Autoradio ? Ben, O-T-O-R-A-D-I-O. Fastoche.
Alors, étiez-vous freiné par l'informatique et les microprocesseurs pour réaliser vos innovations ?
Non, pas vraiment. C'est-à-dire que bon, il y a peut-être quelques radiations qui étaient gênées, qui étaient freinées, notamment quand il fallait miniaturiser ou autre. Je pense un des plus beaux exemples que j'ai en tête, c'était au tout début de ma carrière, c'était Aramis. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. C'était des métros de petite taille, semi-automatiques. Là, on était vraiment gênés par la technique, si vous voulez. Hein. C'est clair, ça se passait dans les années 70.
C'était des métros pour augmenter la vitesse, c'était ça?
C'était des métros, des voitures de 6 personnes, donc modulables en quantité, non accouplé, c'est-à-dire immatériel, hein, s'il y avait un asservissement qui faisait qu'il circulait en rame, et seule la voiture destinée à une station s'arrêtait. Donc ça vous permettait d'économiser le temps d'arrêt à chaque fois. Enfin, vous aviez un temps de une vitesse commerciale bien plus élevée.
D'accord.
Que sur un métro actuel qui tourne aux environs de 20, par exemple sur Paris. On montait à 30-40, ce qui est peut-être conséquent. Hein, ça vous divise par deux le temps de transport. Là, il fallait beaucoup d'équipement sur chaque véhicule. Hein, et donc on sentait vraiment la limite de la technique. Là, c'est tout début de ma carrière que je l'ai vraiment ressenti. Je pense donc que ce type de transport reverra le jour dans 10 ans, enfin ou 15 ans.
D'accord. Alors, côté humain, y a-t-il eu des femmes qui ont compté pour vos inventions ?
Alors, il y a des femmes qui ont joué un rôle essentiel. Hein. Je pense à une femme qui s'appelle Michèle Germain, à la RATP, qui a été un des vecteurs essentiels pour diffuser la technique et convaincre les agents d'exploitation que c'était une vraie technique et une bonne technique. Bon, sans quoi des femmes, une des femmes qui m'a le plus marqué, c'est bizarre, c'est un prof de latin que j'ai eu quand j'étais tout gamin et qui m'a donné une phrase qui m'est toujours restée en tête, c'est « Age quod agis, fais bien ce que tu fais ». Et je crois que j'ai été déformé à vie parce que je sais pas bâcler un travail. Donc je sais pas aller vite, souvent. Dans les femmes qui ont compté, alors j'ai par exemple ma fille aînée, si vous voulez, qui assistait des aveugles et qui m'avait donné l'idée d'un outil. Et c'est un de mes grands regrets parce que j'avais commandé 300 prototypes qui doivent dormir quelque part à la RATP et qui devaient être utiles, si vous voulez, pour les aveugles de Paris. Bon, ça n'a jamais été fait. Par exemple, voilà. Mmh. Et puis en négatif, j'ai ma cadette, elle que j'ai pas vu grandir parce que j'ai pour notamment Calypso, pour que ça devienne un standard international, j'ai passé pratiquement le tiers de mon temps à l'international à courir un peu d'un avion à l'autre,
ouais.
Et donc à ne pas la voir grandir. Donc ça, c'est un de mes grands regrets.
Y a-t-il des personnes marquantes que vous avez rencontrées en dehors de votre secteur ?
Ben, j'essaie d'en les citer une, mon professeur de latin. Quand vous êtes très pris par votre travail, vous êtes surtout dans votre secteur. Et puis pour juger des gens, si vous voulez, il faut les voir un peu sur la longueur. Je prétends ne pas être comme certains élèves de certaines écoles, allusion à l'ENA,
ouais. Hein,
qui savent tout, qui jugent tout en quelques secondes. Moi, j'ai besoin d'un peu plus de temps. J'ai rencontré de très grands patrons. J'ai cité Pierre Veil à la RATP. J'ai cité Christian Blanc. J'ai le plus grand respect pour eux. J'ai essayé de rencontrer le ministre des Transports mexicain, Paco Noreña, qui est décédé depuis, qui était aussi un très grand monsieur, qui m'a, avec tous m'ont appris beaucoup de choses.
Et un mot rapidement sur Roland Moreno, qui nous a quitté, l'inventeur de la carte à puce.
Ben, Roland Moreno, c'est un personnage, hein. C'est d'avant tout, il se prend lui-même pour un grand bouffon, il était amusant. Ben, je crois qu'il a un grand mérite, ça a été celui d'être un peu le chantre de cette innovation. Qui, comme toutes les innovations, était un peu le fruit de plusieurs personnes, etc. Lui, c'était la partie la plus apparente de l'iceberg, ce qu'il a fait de faire avec brio. Et donc, moi, j'ai eu à travailler avec lui assez fréquemment, parce que j'ai dit que c'était pratiquement, enfin, son entreprise était notre assistant technique dans toute cette affaire. Sur le plan personnel, il aimait bien le vin, etc. On avait des déjeuners assez homériques, puisqu'il y arrivait parce qu'il trouvait un Château Lafitte pas bon de le retourner la bouteille aussi sec, ce qui me rendait dingue. On en laisse là, moi je la trouve très bonne. Bon.
Quel sera notre futur ?
Quel sera notre futur ?
Quel sera notre futur ?
Quel sera notre futur ? Ensemble, on se le demande, vraiment, ça nous intéresse. On pense,
quel sera notre futur ?
Pas tant te balader.
Dans 10 à 20 ans, comment voyez-vous les transports en commun à Paris ?
Bah, si vous voulez, alors les transports en commun, d'abord, il y a la fonction basique de transport, hein, transporter physiquement les gens. Et là, il faut être très prudent parce que c'est des êtres humains qu'on transporte. Donc, s'il n'y a pas de révolution, mais les techniques basiques du transport physique des gens n'auront pratiquement pas évolué. Il faut qu'elles évoluent très lentement. Hein, la constante de temps est par nature très lente. Il faut être très prudent. En revanche, si vous voulez, tout ce qui est essentiel, c'est les gens se déplacent pour une raison. Donc, on s'intéresse de plus en plus au but du transport. Donc, on remonte la chaîne. Moi, la grande chance que j'ai eue, je crois, ça a été de vivre et de participer à cette émergence de la troisième génération de transports en commun urbain basée sur l'informatique et les télécoms, qui ont permis, si vous voulez, on avait utilisé ce terme avant l'heure, de faire le traitement du voyageur, qui compose les trois domaines. S'il est le péage, donc on lui prélève une dîme, on l'informe, d'accord, il y a tous les aspects sécuritaires. Bon. Donc là, si vous voulez, oui, on est dans les technologies de l'information, ça va vite, ça va évoluer, on le voit bien. Ben, par exemple, un des grands combats aussi que j'ai mené, ça a été l'arrivée du GSM dans le métro. Alors, qui s'est fait en deux temps. Le GSM, le tout début, ça a été fait avec des antennes à perte parce que nous avions un réseau radio et donc il fallait passer le 968 MHz des premiers GSM. Et j'ai reçu l'ordre de l'autorité de régulation d'arrêter puisque Bouygues arrivait, hein, et que Bouygues était dans la fréquence au-dessus. Donc dans les 1800, donc l'antenne ne passait pas. Donc il a fallu amener tous les trois opérateurs pour discuter. Je crois que la première fois historiquement où ils se sont retrouvés sur une même table, c'est dans mon bureau, et ça a été homérique, hein, pour les amener à discuter et à traiter ensemble, parce que la RATP n'avions pas de place pour mettre les B en nombre suffisant. On pouvait pas mettre 3 B côte à côte. Il en fallait une commune. Donc, c'est ce qui a été fait.
Ouais.
Donc, si vous voulez, voilà, c'est comme ça que le GSM est apparu dans le métro. Donc, vous voyez, et ça a été un des premiers métros, et en tout cas le premier, à mutualiser les équipements. Parce que pour mettre un équipement et superposer ou donner une exclusivité, c'était pas ce qu'il fallait faire. Hein, donc, vous voyez que là, c'est une évolution rapide.
Aujourd'hui, on peut téléphoner dans le métro.
On peut téléphoner. Partout. Bon, on n'est pas encore en 3G parce que là, il y a une évolution à faire et que justement, je vous dis, il y a un gros problème de place. Le métro remonte à 1900, il n'y a pratiquement pas de volume disponible en sous-sol.
Ah oui.
Et ça dégage des calories, tout ça. Donc, il faut y veiller aussi. Hein, on ne veut pas élever la température par ailleurs. Donc, il y avait également l'arrivée du Wi-Fi, qui était une belle aventure. Ça avait un peu rigolé, puisqu'on parlait de hotspot, et moi, j'avais parlé de hot rod, hein, puisque on l'avait mis sur la ligne, c'était la ligne 36, celle qui, justement, où il y avait une expérience tout à fait intéressante, qu'on avait appelée Cerise. C'est toujours pour des questions de sécurité. Nous avons mis des caméras excessivement performantes à la RATP. C'était très tôt, qui pouvaient détecter la présence d'un colis, etc. Aujourd'hui, ça paraît presque banal, mais il y a pas mal d'années de ça, on était très très en avance. Et également, on prenait des techniques, on assemblait toujours. Il y avait des techniques de compression très fortes. Donc, j'avais une frustration, c'est que on avait des équipements très forts pour voir ce qui se passait à bord du bus, mais tant qu'il se passait rien, il servait à rien. Donc, on s'est dit au fond, en les mettant en mode reverse, on pourra faire du multimédia embarqué à coût marginal, ce qui était l'aspect intéressant. Et ça a été fait sur la ligne 36. Ça a été malheureusement abandonné un peu vite, parce que bien sûr, il fallait avoir un contenant intéressant dedans. Mais vous voyez, par exemple, sur la ligne 36, on vous disait le prochain RER part dans 15 minutes sur telle destination quand vous arriviez près de Saint-Michel. Donc ça vous permettait de descendre, d'aller faire une course et d'enchaîner. Hein, donc c'était tout à fait intéressant. Et justement, c'est dans tous ces domaines où on peut faire d'énormes progrès dans le traitement de l'information.
Vous êtes bien sur Autoradio.
Alors vous avez beaucoup travaillé à l'étranger durant votre carrière, au Mexique, en Syrie, au Portugal, en Italie,
Grèce, à San Francisco. Oui.
Comment qualifierez-vous les transports dans les autres pays ?
Chaque pays a ses transports qui sont souvent leur image. Il n'y a pas d'image homogène des transports. Hein.
Ouais.
Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que nos anciens avaient remarquablement travaillé. Je fais allusion à la deuxième génération de transports en commun urbain. Donc, dans les années 60-70, quand les gens voulaient faire un beau métro, ben, ils n'avaient pas autre choix que de prendre des Français. Hein. Ça expliquait le rayonnement international exceptionnel de la France dû à mes grands anciens qui ont fait un travail exceptionnel, je le répète. D'autres métros ont émergé, il y a des gens qui font de belles choses, notamment les gens de Hong Kong ont fait des choses tout à fait remarquables avec un désir exceptionnel de bien faire. Je me souviens que le ministre des Transports de Hong Kong, lorsqu'il m'avait invité en 95-96, il était obsédé par qu'est-ce que vous proposez, qu'est-ce qu'il faut faire lui-même. Il s'intéressait à tout cela. Il n'était pas obsédé par son image, il a été obsédé par comment je peux être utile à la communauté. C'est que les constantes de temps de ces systèmes de transport sont tellement grands que c'est rarement celui qui lance un projet qui l'inaugure. Donc il y a une vraie difficulté politique à ce niveau-là.
Alors au niveau social, y a-t-il des comportements différents des usagers à l'étranger par rapport à Paris ? Alors, je m'explique, à Paris il y a des bousculades, il y a des gens qui sont pressés, les trains sont bondés, et puis il y a les grèves.
Bon, alors les grèves, effectivement, c'est une de nos spécialités, parce qu'effectivement, on a instauré quelque chose qui est un peu bizarre, c'est qu'on se met en grève et après on discute, alors que l'inverse devrait être l'aspect général. Bon, ceci étant, les transports en commun parisiens, quand on les prend, c'est quand même pas mal dans l'ensemble, hein, et quand même assez remarquable par rapport à ce qu'on trouve par ailleurs. D'accord ?
Ouais.
Malgré ce phénomène de grève qui était effectivement, qui a un côté un peu insupportable. Et maintenant, d'ailleurs, je le dis en toute amitié vis-à-vis de mes collègues de la RATP, qui émanent d'enfants gâtés, parce qu'on n'imagine pas le nombre d'heures pendant lequel un conducteur de métro ou un conducteur de bus a des voyageurs derrière lui. Hein, ça se situe de l'ordre de 2h15 et pas plus. Par jour, j'entends. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose d'une information qu'on donne fort peu.
J'ai pas bien compris, donc 2h15 par jour?
Absolument.
Pour conduire.
Absolument, je pars en toute connaissance de cause.
D'accord.
Bon, alors bien sûr, il y a les temps de mort pour retourner, etc. Donc, si vous voulez, bon, c'est un métier difficile, notamment, je pense, au conducteur de bus, au conducteur de métro aussi, qui est isolé. Donc, vous voyez, quand on peut remplacer un conducteur de métro par une machine qui va faire aussi bien son métro, je pense que c'est aussi un certain soulagement à certains égards. Si on raisonne intelligemment, si on fournit une évolution de carrière à la personne qui y est, tout ça, ça va dans le sens d'une évolution normale, consentie, discutée, hein. Et les gens, ils sont tout à fait ouverts. Je peux pas croire que moi, j'ai trouvé, le meilleur que toi, le pire dans une maison comme la RATP. J'ai rencontré des gens absolument exceptionnels, dévoués de, comme vous l'imaginez pas.
Du coup, sur la circulation, il y a quand même des phases où c'est très, très rempli. Les trains sont très remplis.
Bien sûr.
Il y a cet effet de masse.
Une des raisons.
Qu'on retrouve pas forcément, par exemple, au métro à Londres. On m'a rapporté qu'à Londres, les gens sont assez respectueux de laisser descendre, de remonter des...
Oui, bien sûr, il y a des comportements qui sont liés aux habitudes un peu, on est plus méridionaux que les Anglais, il n'y a pas de doute. Bon, et puis, plus vous descendez vers le sud. Bon, ceci étant, quand vous êtes dans des métros comme ceux de Hong Kong ou de Singapour ou autre, les gens sont, il y a un respect d'autrui, si vous voulez, qu'on a peut-être un peu perdu de vue chez nous. Bon, il n'y a pas de doute de ce côté-là, hein. Ceci étant, quand vous allez à Mexico, par exemple, vous finissez souvent avec un bouton arraché tellement on est serré. Et à Mexico, par exemple, c'est une ville que j'adore, vous avez des wagons réservés aux femmes pour les heures de pointe. Parce que, il se passe des choses peu agréables. Agréable pour elle.
D'accord.
Et on dit que certaines sont libres de monter avec les messieurs si elles le désirent.
D'accord. Y a-t-il des projets de transport dans le monde, en dehors des vôtres, hein, que vous avez aimé de façon insolite ou une performance technologique ?
Moi, j'étais toujours très frappé par ce qui se passe en Asie, notamment par Hong Kong. Hong Kong aurait dû être Calypso, il ne l'a pas été parce que les industriels français n'ont pas voulu suivre. Il est vrai que c'est difficile de faire une première expérimentation à des milliers de kilomètres, mais c'était aussi triste de voir des leaders mondiaux des péages qui n'ont pas pu suivre et qui se sont fait doubler par des boîtes qui étaient australiennes en l'occurrence à l'époque.
Il y a peut-être un autre projet qui...
Alors dans les projets... Bah, si bien à leur échelle également, si les quand vous voyez un projet comme ceux de tous ceux qui apparaissent, et je vais le dire d'autant plus, si vous voulez, que j'étais pas très favorable au départ, c'est ce qu'on appelle les BRT, les bus rapides transit. Qu'est-ce que c'est qu'un bus rapide transit ? Ça consiste à faire un métro, ce sont les métros du pauvre, si vous voulez. Un métro coûte assez cher, et donc, quand vous n'avez pas les moyens de faire un métro, ben vous prenez un axe dans la ville, vous mettez des autobus dessus, vous mettez des stations, et vous faites un métro avec des autobus. Bon, si les avenues sont assez larges, ben ça peut marcher.
Sur le tramway ?
C'est un tramway surplus, mais fait avec des autobus, donc ça coûte bien moins cher.
Ouais.
D'accord ? Et si vous mettez des autobus au plancher surélevé, vous mettez des stations, vous fermez les accès, donc vous contrôlez. Les gens, donc le contrôle s'est fait en amont, comme dans une station de métro, vous perdez pas de temps à l'échange, et ça y va. Et à Mexico, par exemple, vous avez des lignes de ce qu'on appelle le métrobus sur place, qui marche de façon exceptionnelle, je trouve. C'est devenu une référence. Et dans toute l'Amérique latine, vous avez une vingtaine de BRT. Et je répète, ils sont nés à Curitiba, donc, hein, en Colombie. Au début, moi, je regardais ça d'un œil en me disant, bon, il est vrai que par rapport à des pays développés comme là, des enfants gâtés que nous sommes, et on l'oublie, c'est vrai que ça coupe un peu la ville en deux, hein, surtout quand il y a du succès, que les bus se succèdent. Mais néanmoins, ça résout des problèmes de transport et ça met de l'ordre dans la ville, hein. Je veux dire, le spectacle de Insurgentes, qui est la plus grande avenue qui soit au monde, qui fait pratiquement 50 km de long en Mexico, avant et après l'arrivée de métrobus, c'est le jour et la nuit. Donc là, c'est vraiment, ça force un peu mon admiration, alors que tous les aspects de tramway, eux, sont beaucoup plus discutable, hein, ce qu'on voit dans les tramways qui se multiplient. Par exemple, sur Paris, je pense que c'est une aberration que de mettre des tramways sur les périphériques et compagnie. Notant que vous savez que la structure de Paris, c'est 80% des lignes de métro dans Paris intramuros, c'est le désert, des consorts, vous êtes en banlieue, vous vous en rendez bien compte. Là, vous avez la chance d'être sur l'axe du RER, mais ailleurs, c'est quand même un vrai problème. Donc, si vous voulez, je crois que quand on a des moyens, et c'est là aussi tout l'art de la planification, c'est quand on a des moyens limités, il faut faire attention à ce que l'on fait.
Alors, on termine l'émission par la même question posée à Bernard Metenaz, l'inventeur du verre progressif, interviewé lors de la première émission d'Eureka du déclic à l'invention. Il m'avait proposé votre nom à la question « Quel autre inventeur me conseillerez-vous de rencontrer pour une prochaine interview ?» Et vous ?
Bah, c'est très aimable de sa part, en tout cas. Moi, si vous voulez, je dirais au fond des gens qui sont peu connus. Parce que si votre démarche la trouve intéressante, parce qu'effectivement, on parle beaucoup des footballeurs, etc. Et moi, je sais pas, il y a plusieurs noms qui me viennent à l'esprit. Je vais citer celui de Coudreuse, par exemple, qui a promu l'ATM, qui a permis toutes les transmissions rapides, complètement méconnues. Je cite très volontiers Maury. Maury, qui est le père du Minitel. Le Minitel, qui est le précurseur pratiquement tout ce qui est sur Internet. Voilà. La cote, donc, qui est le gars du TGV. Mais si vous voulez une liste, vous prenez ne serait-ce que les gens qui ont été retenus dans le cadre du prix Chérault-Lavé, vous en aurez une liste impressionnante. Mmh. Et moi, je pense que Maury pourrait être assez intéressant. C'est le père du Minitel.
Minitel, ouais.
Ben, le Minitel qui a été le précurseur d'Internet.
Ouais.
Encore un truc franco-français, si vous voulez, qui malheureusement n'a pas pu émerger autant, mais qui, enfin, que les Américains. On a été quand même les premiers à faire des achats en ligne, on l'oublie assez rapidement. C'est pas inintéressant de se pencher sur ces années 80.
Merci André Ampelas d'être venu au studio d'Autoradio. C'était un grand plaisir de faire cette rencontre, en espérant que cette interview vous donne envie d'écrire ce mémoire que vous nous avez un peu évoqué sur votre carrière professionnelle, sur l'aventure du Pass Navigo. Hein, c'est dans la voie. C'est un futur projet.
Oui, il faut y passer un peu de temps et puis essayer de se rappeler tout ça.
Et juste une dernière question. Quand vous partez en vacances, c'est quoi la première chose que vous faites? Est-ce que vous regardez les transports?
Alors, par des formations, je peux vous dire qu'effectivement, ça ne peut pas y couper. C'est... Effectivement.
Eh bien, merci encore d'être venu et puis bon voyage à Mexico.
Une semaine, l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Sous ton soleil qui chante, le temps paraît trop court pour goûter au bonheur de chaque jour. Mexico, Mexico.
Marre du boulot, mets-toi au repos avec Autoradio.